Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Radio Neuville en direct depuis le studio 102 du Collège Léon de Lagrange sur la web radio de l'Académie d'Orléans-Tours. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission spéciale et nous allons maintenant nous livrer à un exercice compliqué mais ô combien passionnant, celui de l'entretien. Chers parrains, cher Stéphane, si vous le voulez bien, nous souhaiterions vous poser quelques questions sur votre vie de journaliste.
Plaisir. Écoute.
Avez-vous exercé un autre métier que journaliste ?
Jamais. Jamais. J'ai commencé le journalisme, je dois dire un peu par hasard en fait. J'étais étudiant en droit à la faculté de Nanterre, à côté de Paris. Et cette faculté à l'époque était assez éloignée de l'endroit d'où j'habitais. Et il n'y avait pas de RER, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de tramway, il n'y avait pas grand-chose qui permettait d'aller à la fac. Donc j'ai été voir mon père en lui disant « Écoute, papa, franchement, tu ne veux pas m'acheter une voiture d'occasion ou un truc pour que je puisse aller à la faculté ?» Il m'a dit « Écoute, si tu veux une voiture, tu te débrouilles. » Et donc j'ai cherché à voir un petit boulot qui m'aurait permis de gagner un peu d'argent pour m'acheter ma première voiture. Et imaginez-vous qu'à cette époque-là, à la télévision, il y avait un bureau qui s'appelait le desk. En anglais, ça veut dire le bureau. Et le desk était l'endroit où on coupait les dépêches pour les distribuer dans les différents services de la rédaction, c'est-à-dire la politique française, la politique étrangère, le sport, les sciences, etc. Je vous dis ça, c'est un temps que vous ne pouvez pas connaître, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce qui est à votre disposition aujourd'hui, et donc les dépêches, l'information, étaient imprimées sur du papier par d'énormes machines, comme des machines à écrire, et donc il fallait couper régulièrement toutes ces dépêches et les apporter aux journalistes pour qu'ils préparent leurs journaux. Et donc, j'ai découvert ce qu'était l'information en coupant ces dépêches et en les portant dans différents bureaux. Et en plus, on nous demandait, et ça c'était passionnant aussi, de rédiger 3 fois par jour, le matin à 9h, puis à midi et enfin à 19h, des petites notes de synthèse, des résumés de l'actualité, qui permettaient aux journalistes, d'un coup d'œil, de voir en gros ce qu'il y avait d'important dans cette journée-là. Et donc ça nous apprenait à écrire court, et à mettre sur un bout de papier l'essentiel, enfin ce qui nous apparaissait comme étant l'essentiel de l'actualité de cette journée. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un exercice absolument, bon, pas facile, évidemment pas facile, mais extrêmement intéressant. Et puis, j'étais là en train de couper mes dépêches une nuit, qui était la nuit du 21 juillet 1969. Et la nuit du 21 juillet 1969... c'est la nuit où l'homme a posé le pied sur la Lune. Et je me suis dit, je ne sortirai plus jamais d'ici. Voilà. J'oublie la faculté de droit, je vais continuer à couper mes dépêches, et je ne sortirai plus jamais de ce monde extraordinaire qui est celui de l'information et du journalisme. Voilà comment j'ai commencé, et je n'ai jamais fait que du journalisme.
Le journalisme, est-ce un métier ou une passion ?
C'est tout en même temps. C'est une surprise permanente. Voilà. J'ai bientôt 64 ans, là, dans quelques jours. Tous les matins, je me réveille en me disant « Tout peut arriver. » Voilà. Et donc, je m'oblige à accepter l'idée que tout peut arriver. Tout. Et même l'impensable. Il faut avoir la capacité à accepter que tout puisse arriver. Et donc, vous mettre dans la situation de vous demander comment vous feriez si l'impensable arrivait. Des choses invraisemblables. Mais nous vivons dans un monde où désormais peuvent se produire des choses qui nous apparaissaient comme inconcevables il y a simplement 4 ou 5 ans. Le prix Nobel de physique vient d'être décerné à un monsieur qui travaille sur des théories qui sont celles de ce qu'on appelle la physique quantique. Et dans une de ces théories, il est dit qu'un chat peut être mort et vivant au même moment. Pas mort ou vivant, mort et vivant. Ça, c'est impensable. Pour nous tous, on est ou mort ou vivant. Eh bien non, la physique montre qu'il existe des états très complexes à expliquer, mais néanmoins qu'ils existent à un moment précis où on peut être une chose et l'autre, pas une chose ou l'autre. Et ben voilà, être journaliste, c'est de se dire que je me réveille aujourd'hui dans un monde où désormais, on peut être mort et vivant au même instant. Et c'est à nous, et donc à vous, hein, maintenant que vous êtes en charge d'une radio, de vous demander comment vous allez faire pour traiter d'une situation aussi incroyable que ça. Comment expliquer à quelqu'un qu'on peut être mort et vivant ? C'est extraordinairement difficile. Mais donc ça va vous obliger à imaginer des chemins, des moyens de dire, de transmettre et de faire comprendre. C'est pour ça que ce métier est un métier passionnant. Et que, à la question que vous me posiez, j'ai envie de vous dire que c'est d'abord une passion et que comme il faut un peu se méfier des passions, il faut faire en sorte que le métier corrige vos excès, vos emportements, vos emballements, mais ne vous privez surtout pas de la passion si vous avez la chance de l'éprouver.
Est-ce un métier complexe ?
Oui. Alors, complexe. Qu'est-ce que ça veut dire, complexe ? Les sociologues disent que la complexité, c'est quand vous devez réfléchir, analyser à beaucoup de phénomènes différents qui se produisent au même moment, au même instant. Vous avez en même temps des questions qui vont être économiques, politiques, scientifiques, culturelles. Et toutes se rejoignent. Et chaque fois qu'elles se touchent, elles créent une situation nouvelle. C'est ça la complexité. C'est-à-dire que vous devez raconter une histoire qui est en permanence, au moment où vous la racontez, en train de se recomposer. Imaginez ça, c'est incroyable, quoi. Il faut raconter une histoire et à peine avez-vous prononcé le mot qui permet de raconter l'histoire que déjà l'histoire a changé. Eh bien, c'est ça la complexité. Il faut savoir gérer ce changement permanent et faire en sorte qu'il continue d'avoir un tout petit peu de lisibilité.
Maintenant que vous n'êtes plus au journal et que vos sujets ne sont plus dictés par l'actualité, comment choisissez-vous vos sujets ?
Dans l'actualité. C'est-à-dire que j'essaie de voir comment on peut traiter des sujets d'actualité, mais en leur donnant plus d'espace, et surtout, c'est pour moi ça qui m'amuse le plus en fait. Par exemple, il y a sur Arte en ce moment un feuilleton qui a commencé hier soir, qui raconte l'histoire de 5 jeunes séminaristes, des hommes qui ont décidé de devenir prêtres. Bon. Je vais faire une émission dimanche, non pas sur le feuilleton de la télévision, mais sur dans quel état l'Église est-elle aujourd'hui. Est-ce que l'Église répond aux questions de notre temps et surtout de votre temps à vous ? Est-ce qu'il faut s'interroger sur le mariage des prêtres ? Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien ou mal qu'un prêtre ne puisse pas se marier ? Il faut s'interroger sur la sexualité des prêtres. Est-ce qu'un prêtre, ça peut faire l'amour avec une femme ? Est-ce qu'une religieuse peut faire l'amour avec un homme ? Ce sont des questions qui doivent être posées à notre époque aujourd'hui. Est-ce qu'un prêtre peut ou non avoir des enfants ? Est-ce qu'un prêtre peut ou non célébrer le mariage d'un couple homosexuel ? Ce sont des questions très complexes, parce que ce sont des questions qui touchent à notre vie, à la façon dont elle s'organise, peut-être même à des questions qui nous apparaissent comme étant d'ordre moral. Mais en tout cas, ce sont des questions de votre temps à vous. C'est vous qui allez vivre ce temps-là. Et donc moi, ça m'intéresse de voir comment on peut demander à des hommes et des femmes d'Église comment ils sont prêts à changer quelque chose pour que l'Église reflète la culture, les comportements de notre époque. Et donc, là, j'ai une heure pour faire ça. Et je vais le faire avec des gens qui vont venir de cultures différentes. Il y aura un philosophe, il y aura un historien, il y aura un biologiste. Parce qu'encore une fois, je pense que le point de vue de chacun d'entre eux, appliqué à cette question de qu'est-ce que l'Église peut nous proposer aujourd'hui, permettra de mieux comprendre où sont les difficultés, mais où sont aussi les défis qui sont posés à l'Église. Donc en fait, quand on est journaliste, on ne peut pas s'en empêcher. Je continue de chercher dans l'actualité quotidienne des éléments qui me permettent d'interroger le monde dans lequel je suis et dans lequel nous sommes tous.
Lorsque vous êtes au micro, lisez-vous des textes ? Si oui, qui les écrit ?
Je lis pas de texte d'abord, peut-être c'est un défaut d'ailleurs que j'ai, mais si jamais quelque chose est écrit, c'est de toute façon moi qui l'aura écrit.
Comment vivez-vous le fait d'être écouté par des millions de personnes ?
Je vais vous surprendre. Quand je suis au micro, je ne pense pas du tout à ça. Quand je suis au micro, je suis complètement, et quand je dis complètement, ça veut dire intellectuellement et physiquement connecté à la personne qui est en face de moi. Je n'ai qu'un seul interlocuteur, c'est celle ou celui à qui je parle. Et je suis exclusivement consacré à lui. Je ne pense pas du tout, et peut-être encore une fois, je ne prétends pas avoir raison là-dedans, mais j'essaie de répondre à votre question de la façon la plus précise possible. Je ne suis disponible que pour celui ou ceux qui sont en face de moi à l'instant de l'émission que j'anime. Parce que je crois vraiment que la radio, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète parce que c'est à mes yeux extrêmement important, la radio, c'est un engagement total. Là, je suis devant un micro. Et vous, comme moi, vous êtes devant un micro. Si vous ne mettez pas dans ce micro-là, comme si vous aviez la capacité incroyable de rentrer à l'intérieur. Vous connaissez l'histoire de la lampe d'Aladin. La lampe d'Aladin, c'est un génie qui sort de la lampe. Vous, il faut que vous soyez l'inverse. Il faut rentrer là-dedans. En vous disant, il faut que je sorte de l'autre côté. Et quand je vais sortir de l'autre côté, il faut qu'il y ait quelque chose de fort, qui donne envie à ceux qui sont chez eux de rester et d'écouter. Donc c'est un engagement physique. Incroyable, il ne suffit pas de lire un texte. Ça, n'importe qui peut prendre un bout de papier et lire un texte devant un micro, mais qu'est-ce qu'il y aura de l'autre côté ? Il faut toujours vous demander comment vous pouvez faire en sorte d'aller chercher l'autre, mais de le chercher, presque de le toucher. C'est pour ça que je vous dis que la radio, c'est physique. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommandais tout à l'heure, quand vous faites une interview, ne quittez jamais des yeux la personne à qui vous parlez. Ne la quittez pas une seconde des yeux. Observez tout. Comment il bouge ses mains, comment il bouge son corps, comment il s'avance ou comment il se recule, comment il va se gratter la tête si vous lui posez une question qui l'ennuie, ou se toucher le bout du nez. Tout ça, ce sont des signes qui sont incroyablement bavards, qui vous disent qui est la personne qui est en face de vous. Ne quittez jamais des yeux la personne à qui vous parlez. Parce qu'en fait, sa parole peut vous dire une chose, et son corps peut vous dire autre chose. Et là où la parole peut quelquefois mentir, le corps ne ment jamais. Ne quittez jamais le corps des yeux. Très important.
Êtes-vous stressé avant une émission ?
Bien sûr, ça peut m'arriver d'être stressé avant une émission, comme tout le monde. Parce que c'est difficile, parce que vous vous en êtes rendu compte ce matin, c'est la radio, c'est un exercice compliqué, c'est un exercice à plusieurs. Il faut se passer le relais. Il faut savoir réagir très vite. Il faut une très grande plasticité. C'est-à-dire qu'il faut que votre cerveau soit capable de s'adapter très vite à des situations nouvelles, inattendues. À un moment donné, ce matin, vous avez eu un petit problème technique. Sauf que vous l'avez très bien géré. Ça s'est très bien passé. Vous n'avez pas enchaîné. Vous n'étiez pas là tout à l'heure quand ça s'est passé. Mais à un moment donné, vous avez fait un enchaînement qui n'était pas le bon. Et il fallait néanmoins garder une continuité dans l'émission. Il ne fallait pas que celle ou celui qui était en train de vous écouter se dise « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Et en fait, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un souci. Parce que vous avez très rapidement repris les commandes de ça. Ben ça peut provoquer un peu des émotions ou des tensions. Donc il peut m'arriver, en effet, d'être stressé, bien sûr. Comme tout le monde.
Pourquoi plus la radio que la télévision ?
Parce que la radio, vous ne pouvez pas, avec juste un petit sourire, une expression, une jolie cravate, sauver une situation. La radio, vous y êtes ou vous n'y êtes pas, quoi. Voilà. La radio, c'est 100% de vous-même. Parce que ceux qui trichent en radio, ceux qui font un peu comme ça, des phrases, etc., on l'entend tout de suite. La radio, c'est un aveu. Voilà. La radio dit tout ce que vous êtes tout de suite. La télé, c'est une image, et l'image, elle est difficile à lire. L'image, on peut s'y tromper, puis on peut composer des tas de choses, et puis on est très vite... J'aime beaucoup la télévision, j'en fais aussi, d'ailleurs. Mais si je devais choisir un jour entre l'une ou l'autre chose, je n'aurais pas, mais ne fût-ce qu'une seule seconde d'hésitation. Je choisirais bien sûr la radio. C'est pas que j'aime la radio, j'adore la radio.
Auriez-vous pu travailler sur une radio musicale?
Je pourrais travailler dans votre radio, dans n'importe quelle radio, pourvu que ce soit de la radio. Voilà, la radio, c'est la radio. Vous pouvez la faire avec un petit micro et quatre auditeurs, mais c'est de la radio. Voilà. Il n'y a pas de différence entre votre radio et France Inter. La radio, c'est de la radio. Ça vous demande tout. Voilà. Si vous donnez tout, ce sera une très grande radio.
Au final, qu'est-ce qu'un journaliste de radio ?
C'est un fou furieux.
Chers parents, nous vous remercions infiniment pour le temps que vous avez accepté de nous consacrer, pour votre gentillesse et votre disponibilité. Cette matinée restera gravée longtemps dans nos mémoires et grâce à vos conseils, nous allons pouvoir continuer à travailler pour notre prochaine émission avec la volonté d'être encore meilleurs.
Eh bien, je vous le souhaite et je suis très heureux, mais vraiment très heureux et très honoré d'avoir parrainé cette journée et d'être le parrain de votre radio. Et c'est une responsabilité éminente parce qu'être parrain, c'est pas juste comme ça venir un jour et dire coucou, bonne chance à vous. Être parrain, c'est une responsabilité morale que j'ai bien l'intention d'assumer. Donc probablement, on est appelé à se revoir un jour ou l'autre. Et bonne chance à vous.
Merci.